La chronique dans ce temps-là, avec Philippe Basque, une invitation du village historique acadien.
Hey, on va remonter dans le temps. On adore remonter dans le temps tous les mercredis avec notre ami Philippe Basque.
Bonjour Philippe.
Bonjour à vous deux.
Bon, et ce matin, vous avez décidé de nous parler d'un épisode du balado du Théâtre populaire d'Acadie, du TPA, concernant la qui s'appelle « Victime des ondes ». Vous nous allez nous parler d'un citoyen de Bacaraquette.
Oui, donc le TPA, je dirais, comme quelques années passées, a fait leur balado et puis ils avaient enregistré une première série d'histoires qui venait d'un livre qui a été publié au tournant des années 80 là, par Antonin Friolet. Et puis lui, ça s'appelait « Caraquette, village au soleil ». Puis il en avait fait une première édition. Puis dans la seconde édition, qui est le livre qu'ils utilisent, le TPA, il avait écrit plusieurs histoires du Grand Caraquette puis de Bas-Caraquette de cette région-là. Puis l'année dernière, ils en ont enregistré quelques autres. Et puis il y en a une que je m'avais réservée pour le mois de novembre, parce que c'est un événement qui se passe au mois de novembre, concernant Azad Le Boutillier. Le titre là, de cette histoire-là s'appelle « Victime des ondes », parce que les ondes, c'est comme les ondes marines là, qui se passent sous la mer. Puis lui est mort noyé, là, c'est un pêcheur de Bas-Caraquette. Puis il a vécu une vie avec plusieurs choses intéressantes. Puis lui en parlait dans son livre, M. Friolet, en 1980 ou en 1982. Puis la société historique Nicolas Denis, c'était Amédée Lantaigne, lui était d'origine de Bas-Caraquette également. Lui a écrit l'histoire plus historique. Là. Fait d'un côté, si vous voulez lire l'histoire romancée un peu, puis avec la messe et les funérailles, puis t'as l'autre version plus historico-historique, là, où est-ce que là, il y a moins de romance, là, t'sais, en tout cas, c'est écrit vraiment comme un historien avec les dates, puis qu'est-ce qui s'est passé. Puis on a quelques autres histoires, quelques autres articles qui concernent un peu la pêche ou les tempêtes qui se passent durant cette époque-là. Parce que là, on remonte aux années 1900 et 1935, puis on est dans l'époque de la pêche à la morue, puis de la vente de la morue. On est encore à la pêche aux goélettes, hein, ça tire sur la fin, par exemple. On en construit encore. Lui, il construisait des goélettes. Puis il pêchait avec ses goélettes, puis il en achetait, puis il en vendait, puis il trafiquait même, puis il pêchait la morue. Puis justement, hier, je suis allé voir un monsieur Césaire Chasson de Petit-de-la-Main, qui me racontait que lui, quand il était jeune, son grand-père pêchait la morue. Puis je lui ai demandé c'était quoi la saison de la pêche à la morue. Il me disait que c'était tout l'été, ça. On pouvait pêcher la morue tout le temps. Puis Azad Le Boutillier, sa goélette, il va la ramasser un 5 novembre. Qui était une journée comme hier, dans le fond, le 5 novembre. Fait ça, juste en regardant le dehors, on peut voir dans quelles conditions qu'ils travaillaient. Puis eux autres, c'était pas évident parce qu'il y avait eu du vent ou quelque chose du genre. Là. Ça, c'est en 1935. Mais auparavant, je vais quand même parler d'un peu de sa vie à lui. Là.
J'ai une question, Philippe, avant d'aller plus loin, parce que je suis pas un spécialiste en pêche. Quand on parle de pêche à la goélette, c'est quoi comme spécifique?
Ben, c'est un gros bateau avec des mâts. Puis on partait assez loin là, pour pêcher la morue. Puis on revenait ensuite de ça sur le bord de la mer. Là. Puis on débarquait la morue. Puis on la faisait sécher chez Vigneault. Là. Ça, c'était de l'époque du séchage de Vigneault. Puis la morue était séchée. Puis après ça, elle était mise dans des tonneaux. Là. Fait, on partait à bord de ces navires-là. Puis dans les années... Là, on n'était pas certain quand on jasait, les années 40-50. Là, après un bout de temps, la morue séchée va tranquillement disparaître. Puis on va commencer à faire des filets de morue. Puis la morue, comme telle, va se mettre à rapetisser. Puis après ça, ben là, la pêche à la morue va fermer en 1990 ou en 1992, là, il y a le laboratoire. Rapidement, c'est ça. Là. Il y a des photos aussi dans les articles qu'on voit, les goélettes. Là, c'est un peu comme le Blue Nose qui est sur le Dyssen. Ça ressemble à ça, là, si on fait des comparaisons.
Ah, OK, ouais,
fait, là,
ouais.
Des bateaux comme ça de pêche. Là. Fait que lui va vivre des événements dangereux, là, comme le métier de pêcheur à cette époque-là. C'est aller sur la mer, affronter les grandes tempêtes. Il y en a eu une dans la région en 1900, puis il a passé à travers elle de 1914. Et puis lui, elle de 1914, il racontait qu'il était au large de Miscou, puis il devait rentrer, puis les vents étaient terribles, puis ça. Puis rendu à Miscou, il n'avait pas voulu rentrer dans ce coin-là, il avait peur de frapper la pointe Wilson ou une autre pointe, là. Puis finalement, ils ont contourné ça, puis ils ont dit on braque directement par chez nous, par Bas-Caraquette. Mais il faut penser qu'il y avait des grosses vagues, puis ils ne voyaient pas rien, puis il y avait même de la neige. Hein. Les autres, c'était au mois de juin, cette tempête-là, en 1914. Puis il y avait un peu de neige, fait, ils ne voyaient pas rien. Puis à un moment donné, ils sont arrivés proche du bord, les gars ont dit « la terre », puis il y a eu une grosse vague, il y a eu un coup de vent, ils ont passé par-dessus la dune, ils ont passé par-dessus la côte, ils ont fracassé dans des clôtures, puis ils sont arrivés sur la terre comme ça, là, la mer les a portés directement sous la terre.
Wow! C'est assez brutal. Ouais.
Quand ils sont arrivés sur la terre, ils étaient contents, ils ont couru se réfugier dans une maison là, qu'ils étaient rendus après chez eux. Là. Puis lui, il raconte dans son histoire qu'il s'avait attaché sur le bateau de peur de passer par-dessus bord, hein, un coup de vague. Là. Mm-hmm. Puis, là, c'est ça qui arrivait souvent, qu'il passait par-dessus bord. Ça s'est passé en 1914. Puis il y a d'autres choses qui s'est passé dans sa vie à lui, par exemple, dans les années 1920. À la fin des années 20, tu avais encore la prohibition. À un moment donné, il va se faire apprendre, lui, à acheter de la boisson illégale. Sur les goélettes au large, il y en avait qui se promenaient avec de la boisson contrebande quand c'était la prohibition. Fait que lui, il va faire au moins deux séjours qu'on raconte en prison à cause qu'il se fait pogner avec de la boisson. Là. Puis lui, il se fait pogner avec de la boisson une fois. Après ça, il va pêcher, puis on saisit sa goélette aussi. Parce que je sais pas ce qu'était la loi, mais on disait que, étant donné que c'était ce bateau-là qu'on avait amené de la boisson dessus, c'est comme s'il fallait saisir le bateau aussi. Là.
Le bateau était responsable.
Oui, je sais pas, en tout cas. Mais ils ont saisi le bateau aussi. Fait que là, ça va être vendu aux enchères. Fait là, il va y avoir des problèmes de même. Puis, éventuellement, il va se mettre à construire une goélette, puis il va en acheter une. Fait qu'en 1935, au rendu au mois de novembre, pour acheter sa goélette, il avait dû hypothéquer sa maison. Il venait d'acheter une goélette. Il en avait une en construction. Il y avait des dettes qui étaient là, mais c'est un homme qui était encore jeune. Là. Il avait encore de sa vie devant lui à payer ça, comme n'importe qui. Là. Mm-hmm. Je pense qu'il avait 48 ans ou 49 ans. Alors là, on est rendu le 5 novembre 1935, puis il faut amener la chaloupe, il faut amener la goélette sur le bord de l'eau. Il y avait un nom que j'utilisais pour ça. C'était comme, je ne me rappelle plus du terme exact là, qu'il disait, là. Mais il fallait amener la goélette sur le bord de l'eau, là, sur la terre ferme. Là. Puis ils utilisaient une petite chaloupe pour aller à la goélette. Donc là, ils étaient quelques gars qui ont été, là, ils étaient plusieurs. Là, il y avait lui et son fils, il y avait des voisins aussi qui étaient là. Ils étaient une couple de jeunes là, de 17 ans puis de 20 ans. Puis, il y avait lui qui avait comme 48 ans, puis quelques gars. Fait qu'ils ont décidé d'aller à la chaloupe, faire de quoi à la goélette. Puis en revenant, ils ont fait tomber une espèce de boîte pour ramasser des choses. Puis cette boîte-là appartenait à la compagnie W.S. Logie, à qui ils vendaient souvent le produit de la pêche ou qu'ils achetaient des choses au magasin. C'était une des compagnies comme les Robins qu'on a parlé la semaine passée, mm-hmm. ou comme les Four Wings qui étaient à Pointe-Alexandre ou à Lamec. Fait que cette boîte-là, en voulant la prendre à bord de la chaloupe, ils ont été pour se pencher. Puis en se penchant, la chaloupe a chaviré. Puis ils ont tout tombé dans l'eau. Puis c'était quand même de l'eau qui brassait assez. Puis on est au mois de novembre, il faut penser que, tu sais, aujourd'hui...
L'hypothermie,
aujourd'hui, il annonce 18, là, mais dans ce temps-là, en tout cas, cette journée-là, c'était très froid. Fait qu'il y en a plusieurs qui ont tombé dans l'eau. Il y en a un, Martin Paulin, je pense, où il y avait un Doucette aussi, je ne me souviens plus de son nom. C'était un jeune homme, ils étaient comme à 200 000, qu'ils ont dit, une certaine distance, là, pas 200 000, 200 mètres peut-être, mais ils étaient à une certaine distance de la côte, puis lui a pensé être capable de nager là, c'était un bon nageur. Puis finalement, lui, la mer va l'emporter, puis il va se noyer comme ça.
Est-ce qu'il est le seul à s'être noyé?
Non, il y en a plusieurs. Là. Il y en a juste deux sur les cinq ou six qui a survécu. Fait qu'ils étaient tous agrippés sur la chaloupe renversée, puis ils essaient tant bien que mal de se tenir là-dessus. Puis un après un, ils vont lâcher, puis ils vont s'en aller. Puis c'est un peu comme ça que Azad Leboutier va mourir en mer, noyé. Là. Il y en a deux qui vont rester cramponnés là-dessus, puis ils vont crier au secours, puis essayer de faire des signaux sur le bord de la mer. Puis c'était comme en fin de journée, le 5 novembre. Et puis, il y a quelques personnes qui étaient sur le bord de l'eau, pas sur le bord de l'eau, mais comme dans le chemin. Là. Puis, ils ont entendu les cris, eux autres. Fait que là, ils ont été à la mer. Ils ont vu, eux autres, quand même, un petit bout de temps là, dans l'eau. Et puis, ils vont prendre une autre chaloupe qui était sur le bord de la mer. Puis là, ils vont ramer à eux autres. Puis là, ils vont prendre les deux survivants. Ils vont les amener sur terre. Là. Puis finalement, le lendemain, c'est là qu'on va trouver les corps des trois ou quatre noyés. Là. Il y en avait, c'était des pères de famille. Il y en avait deux, c'était des jeunes hommes, là, comme de 17 ans, de 20 ans. Lui, Azad Leboutier, va mourir. Je pense un de ses fils également. Puis il y en a un autre qui devait aller là, mais finalement, c'est son fils qui a été. Le père a survécu, mais le fils qui a remplacé le père, lui, s'est noyé également. Fait que dans l'histoire là, que Amédée Lantaigne raconte, il dit, lui, qu'il s'en rappelle parce qu'ils ont fait la veillée. Hein, on veillait les morts sur les tables. Hein, dans le temps, on veillait les morts
dans les maisons.
Dans les maisons, dans le salon, deux jours, deux nuits. Dans le salon ou sur la table à dîner. Fait qu'il a dit, moi, jeune, là, j'avais été là. Là, on avait été là, vous voyez les morts. Puis il se rappelle d'avoir vu les corps en 1935. Fait que là, les funérailles vont avoir lieu. Puis après ça, lui, sa femme était malade. Puis elle va vivent assez longtemps quand même d'une longue maladie. On raconte ça dans l'histoire. Puis elle va devoir, la goélette qui est en chantier, par exemple, il va falloir qu'elle vende ça pour se faire un revenu pour payer les dettes. Et puis l'hypothèque qu'il devait à un certain monsieur, le gars, lui, va juste rendre de nouveau son hypothèque, puis il va dire non, je te la donne, là, je ne vais pas demander d'argent ni rien de ça, là. Fait que, là, au moins, ça a eu un geste de charité, parce qu'il faut penser que cette madame-là, elle tombait tout seule, malade un peu.
Avec des enfants,
Puis avec,
probablement.
je pense qu'il y avait 3 enfants qui restaient encore à la maison en bas âge, là. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé pour Zad Leboutier un 5 novembre en 1935.
T'es triste?
Mais
oui,
quelle histoire, hein?
Oui, c'est ça. Fait que ça fait partie des histoires qu'on a du TPA. Fait qu'on peut l'écouter. Eux, ils ont repris l'histoire d'Antonin Friolet dans le livre de Caraquet. Puis c'est lu, puis c'est entrecoupé d'extraits d'historiens qui racontent un peu le quotidien. Dans la façon dont c'est fait, romancé, on passe beaucoup de temps comme à l'église, comme si que le prêtre parle, puis souligne un peu les décès de ces gens-là.
Merci Philippe.
Oui, mais de rien.
On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bye bye. Envie de prendre une marche, mais tanné de votre circuit habituel? Profitez de la saison des marcheurs du village historique acadien. De la mi-septembre au mois de mars, le site historique est ouvert gratuitement aux marcheurs tous les jours de 8h à 16h, quand le temps le permet. Avant de partir, vérifiez l'état du sentier en visitant le www.facebook.com/villagehistoriqueacadien.com. Les chiens en laisse sont acceptés, tout comme les vélos. Bonne randonnée!